Bonsoir mes frères et sœurs. Quel bonheur de nous retrouver, c'est pas vrai? D'avoir la santé, d'avoir des moyens de locomotion, tout est grâce, tout est grâce. Alors vous savez que nous avons commencé une étude sur le comportement du chrétien. Un chrétien, il a besoin de rendre un bon témoignage. Si vous n'en éprouvez pas le besoin, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes superstitieux, vous êtes peut-être dans la tradition religieuse, mais un vrai chrétien. Il veut plaire à Dieu, oui ou non? Mais c'est obligé. Un vrai chrétien, il veut plaire à Dieu. Alors je vous avais dit que nous aborderions ce soir le premier des problèmes que rencontre l'église de Corinthe, à savoir les divisions, les rivalités, les jugements par rapport au ministère qu'il y avait dans l'église. Mais je pense qu'il est souhaitable que nous enfoncions un petit peu plus la perception du témoignage, puisque ce texte parle au verset 5, du fait que nous avons été comblés. Bien sûr qu'on peut se priver. Est-ce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu? Oui, on peut se priver. C'est l'apôtre qui dit d'ailleurs, vous recevez la parole de Dieu en vain. Vous recevez en vain, c'est-à-dire on reçoit quelque chose, ça ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens reçoivent la parole de Dieu en vain. Parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ça fait que vous voyez des gens, un an après vous les voyez, ils n'ont pas fait un pas. C'est comme ces sportifs. Vous savez, il y a des sportifs, vous les voyez, et 4 ans après, ils n'ont pas fait aucun progrès, parce qu'ils n'ont pas écouté les coachs qui sont là pour les faire aller plus loin. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. On va lire jusqu'au verset 9. Parce que c'est important ce qui détermine la base de l'église primitive de Corinthe. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Regardez bien, virgule. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est pas beau ça quand on peut dire le témoignage de Jésus a été établi parmi vous. Voilà ce que c'est une église. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça c'est l'introduction, ça s'appelle les salutations, il y a une prière de bénédiction, vous voyez. Que la grâce du Seigneur, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données. Ce n'est pas une formule de politesse, c'est vraiment une prière de bénédiction. Quand on dit à quelqu'un que Dieu vous bénisse, ce n'est pas de la politesse, c'est vraiment une demande de bénédiction. Vous le dites des fois que Dieu vous bénisse. Et quand vous le faites de tout votre cœur, c'est vraiment une prière. Ça s'appelle une prière de bénédiction. Quand vous dites Seigneur, quand vous dites à quelqu'un, mon frère, que Dieu te bénisse. Si vous le faites, si vous le faites avec la tête, ça ne veut rien dire. C'est comme si vous disiez, passe une bonne journée. Mais si vous le dites vraiment, que Dieu te bénisse, c'est une prière. Ça s'appelle une prière d'accompagnement, mais c'est vraiment une prière. Donc l'apôtre Paul commence toutes ses lettres avec cette prière. Elle est nécessaire. Alors la Bible dit qu'ils ont été comblés, ce sont des enfants de Dieu, le témoignage a été établi, il ne leur manque aucun don. C'est beau ça, non? Il manque aucun don. Vous vous dites, dans cette église, les chrétiens, ils doivent être spirituels. Il ne manque aucun don, c'est clair, c'est l'église qui est au top niveau. Et vous allez voir, au fur et à mesure des chapitres, que ce n'est pas le cas. Donc, on va parler des trois premiers mots du verset 8. Il vous affermira. Alléluia. Un chrétien, il veut être ferme. Pour que vous soyez irréprochable. Et puis, il y a cet aspect de la vocation, puisqu'il est dit « Dieu vous a appelé à la communion ». Le témoignage, c'est important. Mes frères et sœurs, vous savez, on va rendre compte au Seigneur, tous. Vous le savez, ça. Vous le savez que vous rendrez compte à Dieu, tous. C'est écrit ça qu'il faut tous comparaître devant le tribunal. Et la volonté de Dieu, c'est que le témoignage soit bien établi. Les gens, ils s'en fichent qu'ils voient écrit « Église évangélique »,« Église protestante »,« Église baptiste ». Les gens, ils s'en fichent. Il n'est pas dit, on reconnaîtra que les gens sont des disciples parce que c'est une église de telle dénomination. Jésus a dit, on reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et l'amour, c'est vrai, c'est quelque chose que l'on reçoit parce qu'on est en communion avec Dieu. Vous voyez, notre frère Nicolas, qui vient de commencer son ministère à Saint-Agne, nous parlait tout à l'heure de la joie. Il a fait allusion à ce verset de Néhémie, chapitre 8, verset 12, à savoir que la joie du Seigneur sera votre force. Beaucoup de chrétiens peuvent dire, oui, la joie, la joie. Mais je dis ça pour qu'on comprenne le contexte. Il est en formation, je le lui dirai tout à l'heure. Mais la joie du Seigneur, elle est notre force. Le contexte de Néhémie, qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils obéissaient. Et quand vous obéissez, la joie du Seigneur, elle est votre force. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie. Ne me faites pas croire que tous les chrétiens sont joyeux. Du temps de Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Alors on le chante des fois. La joie du Seigneur est ma force. La joie. Vous le connaissez ce cantique? Mais il faudrait l'expliquer. Moi je ne suis pas contre. Mais tout ça, ça peut devenir une espèce de mantra. Hein, où on répète des trucs. Oui, la joie du Seigneur, elle est ma force quand j'obéis. Si vous n'obéissez pas, ne le chantez pas et mettez-vous à obéir. Le témoignage est établi. On va voir comme il est important de comprendre certaines choses pour rendre un bon témoignage. Tout à l'heure, je parlais avec les pasteurs de ce verset où Jésus parle des scandales. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la signification du mot scandale ? Puisque Jésus dit, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Alors dans le monde, on dit, oui, c'est un scandale, tel ministre a détourné 5 millions d'euros dans les îles Caraïbes, au Black, alors que lui, il était ministre de l'économie ou du travail. Ça, c'est grave. Mais ce n'est pas ça le scandale. Des fois, on prend des mots bibliques dans le monde. Le mot scandale, c'est un mot, vous le regarderez dans le dictionnaire, qui signifie que nous, on peut éloigner les gens de Dieu. C'est un comportement qui éloigne les gens de Dieu. Est-ce que les gens peuvent d'eux-mêmes s'éloigner de Dieu? Oui ou non? Bien sûr. Je peux, moi. Est-ce que ce soir, je peux abandonner Dieu?
Oui.
Est-ce que ce soir, je peux décider d'abandonner le Seigneur? Moi, Gérard Gault, j'abandonne Dieu. Est-ce que je peux?
Oui.
Oui, je peux. On a l'impression que vous le souhaitez, madame. Est-ce que je peux abandonner Dieu? Oui, je peux. C'est de mon ressort, c'est mon problème. Mais les scandales, on peut le lire, parce que je tiens à ce que, justement, nous aussi, le témoignage soit établi. Parce qu'il y a des églises, les gens ne sont pas des chrétiens. Les gens sont des sympathisants, les gens sont des adhérents, les gens ils ont pris le baptême, mais ils ne sont pas devenus des témoins. Et Jésus l'a dit, vous l'avez entendu dimanche, vous serez mes témoins. Dans Matthieu, donc Jésus parle de cette affaire des chrétiens qui rendent un mauvais témoignage. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et il est dit à plusieurs reprises qu'un chrétien, qu'un pasteur, est-ce qu'un pasteur peut scandaliser une église? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut scandaliser un conjoint qui est inconverti? Oui, etc., etc. Le scandale, c'est quelqu'un qui rend un mauvais témoignage. Donc, en vérité, à la place d'être un témoin, il fait exactement l'inverse, il éloigne les gens de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi les chrétiens, c'est du pipeau. Est-ce qu'ils ont raison? Ben oui, ils ont raison. Si je rends un mauvais témoignage, c'est du cinéma, je scandalise les gens. C'est-à-dire qu'à la place de les approcher, je les éloigne de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens de Corinthe, avaient besoin, malgré la grâce de Dieu, le fait qu'il ne leur manque aucun don, il y a certains chrétiens qui avaient un très mauvais témoignage. On va voir qu'il y a des choses charnelles, c'est pas forcément méchant, mais il y a des comportements qui sont graves. D'ailleurs, Paul est obligé de leur dire à ces chrétiens qui étaient dans une église bénie, regardez quelques versets, ce soir, je veux insister sur cette affaire. Lorsque Paul écrit, donc, il dit à un moment donné, alors c'est à la fin je crois, du chapitre, oui, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, vous allez voir tous les problèmes que l'apôtre Paul aborde pour aider les chrétiens. Nous, ce soir, on est là pour quoi? Pour devenir de meilleurs chrétiens. Vous êtes d'accord? Vous voulez devenir de meilleurs chrétiens? 1 Corinthiens 15, verset 34, il fait peur ce verset. Il fait peur. Mais c'est dit avec beaucoup de sévérité, mais parce qu'à des moments donnés, il faut que l'on soit sévère. Revenez à vous-même. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux pécheurs. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Paul est obligé de dire à ces chrétiens dans une église? Ils avaient fréquenté l'église, ils avaient vu des miracles, ils avaient vu la grâce de Dieu, ils avaient vu la miséricorde du Seigneur. Quelque chose s'était passé à Corinthe, il y avait des homosexuels qui s'étaient convertis. Il y avait... Quand vous lisez, cette église s'était passé quelque chose. Mais beaucoup rendaient un témoignage lamentable. Et ce verset nous indique bien que lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il ne connaît pas Dieu. Vous l'interprétez comment ce verset? Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, quand on le connaît, on a envie de lui plaire. Oui ou non? Et voyez, c'est quand même sérieux, parce que c'est dans une église où il y avait vraiment tout. Il ne leur manquait aucun don. Vous n'aimeriez pas que Dieu dise à l'église de Sainte-Anne, il ne vous manque plus rien. Vous n'aimeriez pas? Ce n'est pas pour ça qu'on serait parfait. Il y a les dons, la grâce, et puis de notre côté, il y a l'obéissance et la foi. Donc, ce sont des choses sérieuses. Dieu veut nous affermir. Il vous affermira. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui marchaient dans cette assurance? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir de la force? Il vous affermira. C'est le contraire du doute. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de douter. Ils commencent à lire la Bible. Monsieur Gou, j'ai lu la Genèse. J'ai lu la Genèse. Le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on m'a dit qu'il a fallu des milliards d'années pour créer la terre. J'ai entendu ça sur Arte. On m'a dit que un scientifique a dit que la terre, il avait fallu 30 milliards d'années pour créer la terre, ou 15 milliards. Bon, on n'est pas un milliard près. Moi, je sais, qu'est-ce qu'il faut croire? Alors, la Bible dit, le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, quand les gens commencent à douter au premier verset du premier livre de la Genèse, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Franchement, je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les jours, c'était des jours de 24 heures? C'était des jours de 1000 ans, puisque la Bible dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc, est-ce que ça peut être 1000 ans? Est-ce que ça peut être des milliards d'années? Ben oui. Mais franchement, moi ce que je crois de tout mon cœur, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Oui, mais les stalactites, il paraît qu'il faut un centimètre. Moi j'ai entendu ça. Un centimètre par siècle. Donc il faut 50 000 ans pour qu'il y ait une stalactite de 50 mètres. Je vais vous poser une question. Combien de temps il a fallu à Jésus pour faire du bon vin? Parce que pour faire du bon vin, il faut combien d'années? Un œnologue, discutez avec un œnologue. Il n'y en a pas une ici. Alors, Laura, combien il faut de temps pour faire un bon vin? 10 ans, 15 ans? Non? Combien il faut? Un œnologue vous dira, mais non, il faut 20 ans pour faire un bon vin, un bonbon. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, demandez-lui combien de temps il lui a fallu pour transformer de l'eau en vin? Et de faire de très mauvais. Combien de temps il a fallu? Ben, le temps qu'il bénisse la flotte. Ça suffit. Mes frères et sœurs, il vous affermira. Si vous commencez à douter dès le premier verset, parce qu'un astronome, un astrophysicien, un scientifique commence à dire oui, mais il fallait que... Écoutez-moi. Dieu a créé les cieux et la terre. Point. Moi, que ça ait mis 1 milliard d'années, 24 heures, 1000 ans, ça m'est entièrement égal. Dieu a créé les cieux et la terre. Ce qui est écrit, il vous faut le croire. Mes frères et sœurs, mais c'est grave. Moi, vous savez, il m'arrive souvent, quand j'ai des temps de libre, je vais sur Internet écouter des prédications. Mais c'est des trucs de fous. Il y a plein de faux docteurs qui commencent à dire que ça, c'est pas dans la Bible. Il y en a même un qui a dit, oui, moi, je crois toute la Bible, sauf l'histoire de la mer Rouge. Mais sur les 66 livres, je crois qu'il y en a au moins 30 qui parlent de traverser la mer Rouge. Vous voyez, ça fait que ça annule 30 livres de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes frères et sœurs, si vous voulez être ferme, si vous voulez rendre un bon témoignage, il vous faut croire que toute la parole de Dieu, elle est inspirée. Toute la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. Et je vous le disais l'autre jour, Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 4, voyez, il leur dit, mais il faut que vous appreniez. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Ah, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos. Qu'est-ce qu'il est dit? Il parle à des chrétiens qui ont tous les dons. afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Vous voulez rester ferme ? N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. S'il vous plaît, ce qui est écrit, ça suffit. Restez attachés au Seigneur. Restez attachés à sa parole. Tenez ferme. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, tenez ferme, monsieur Bordeneuve, il faisait allusion dimanche, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, tenez ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y a des gens, ils ont tout surmonté, 15 jours après, ils sont rétrogrades. Parce qu'ils oublient, après avoir tout surmonté, de continuer à tenir ferme. On l'a vu ça, moi j'ai vu des gens, monsieur Gros, j'ai fait une expérience, vous ne pouvez pas vous imaginer. Comment Dieu m'a béni ? 3 jours après, ils étaient rétrogrades. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Tenez ferme après avoir tout surmonté. C'est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? On va comprendre les choses. Parce que quand on étudie la Bible, si vous avez étudié avec M. Olé, quand on étudie avec les anciens, il vous a rappelé en boucle de tenir toujours compte des contextes. Et le contexte, là, dans 1 Corinthiens, on le relit, on y revient. Voyez, il est écrit, par exemple, verset 9, bon, j'aurais aimé qu'on n'aura pas le temps, je pense, mais on va voir quand même cette base. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion. Donc, dans cette introduction, le Seigneur nous rappelle que le fait d'être chrétien, c'est que nous avons été appelés à la communion. Il y a des gens qui vont à l'église qui n'ont aucune communion. Ce n'est pas parce qu'on prend le pain et le vin tous les dimanches qu'on est en communion avec Dieu. Vous le croyez, ça ? Il y a des gens, ils s'imaginent, vous voyez, qu'il y avait une dame qui était venue plusieurs fois, elle venait, puis après la communion, elle partait. Enfin, la communion, après la Sainte-Cène. Alors je m'en étais rendu compte, pourtant moi, je ne suis pas du genre à regarder. Mais je m'en suis rendu compte. Parce que moi, quand la Sainte-Cène passe, je ne regarde pas les autres, je m'éprouve moi-même. Parce que la Bible dit, éprouvez-vous vous-même. Et un jour, je lui dis, mais ma soeur, comment ça se fait que je pensais qu'elle travaillait, un truc comme ça. Ah, mais moi, je viens, monsieur Gour. Je viens pour prendre le pain et le vin, pour être en communion avec Dieu. Puis après la parole, ça ne m'intéresse pas. Alors on a discuté, et elle s'imaginait que parce qu'elle prenait le pain et le vin, elle était en communion. On ne prend pas le vin pour être en communion. Mais parce qu'on est en communion avec le Seigneur, on célèbre le sacrifice de la croix et du calvaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il faut faire ça, c'est de la superstition. Je lui ai expliqué, et elle est partie. Elle n'est plus revenue. Un chrétien, il est appelé. Alors, on va prendre un verset pour bien comprendre. Qu'est-ce que c'est l'appel ? Qu'est-ce que c'est l'appel ? Appelé à la communion. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous ne serions pas capables de l'expliquer. Alors, il y a un texte qui l'explique très bien, c'est dans 1 Pierre. Vous allez réaliser, dans 2 Pierre, pardon. Dans 2 Pierre, il nous est demandé quelque chose. Il faut que vous compreniez, parce qu'on ne peut pas devenir un bon témoin. On ne peut pas être affermi. On ne peut pas avoir ce témoignage. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire être appelé à la communion, parce qu'on va voir par répercussion tout ce à quoi nous sommes appelés. Vous y êtes, 2 Pierre chapitre 1er, verset 10. Je vous dis ces choses parce que c'est la première fois depuis 17 ans que je suis ici qu'on va prendre un livre. Alors ça, je pense que ça va prendre un an, au moins. Le livre des Corinthiens. Mais je pense que ça vaut la peine pour que vous compreniez comment Dieu parle également pour nous amener à être victorieux. Vous avez vu à la fin de chaque église de l'Apocalypse, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? À celui qui vaincra. Donc, il y a des vainqueurs là où les gens ils veulent obéir. Ce n'est pas parce que vous écoutez un sermon que vous allez obéir. C'est parce que vous allez dire, oui, ça, je veux le vivre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est le verset 10. Mais regardez le verset 9. C'est l'inverse. Celui en qui ces choses ne sont pas. C'est-à-dire tous les efforts pour joindre les vertus chrétiennes. Puisque regardez au verset 5, il est dit à cause de votre position, tout ça, faites tous vos efforts. Donc, verset 8, si ces choses sont en vous, si des efforts sont faits, et ils sont avec abondance, pas du bricolage, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui en cause en qui ces choses ne sont pas est aveugle. C'est grave, hein ? Des chrétiens peuvent être complètement aveugles. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10, il explique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. S'appliquer, vous avez vu quand à l'école, on vous dit « applique-toi ». Pour faire le A, il faut faire le rond comme il faut. Vous rappelez quand on vous disait de vous appliquer à l'école pour faire les... Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Regardez les conséquences. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça vous intéresse ? Deuxième conséquence. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vous intéresse ce projet, ce programme ? Non ? Il n'y en a que quatre qui s'intéressent ? Est-ce que vous réalisez, en faisant ainsi, vous ne broncherez jamais ? Gloire à Dieu ! Il y a des chrétiens, ils sont là depuis 30 ans, 40 ans, quel témoignage ? Vous ne trouvez pas que c'est beau ? Non, c'est pas beau de voir des frères comme frères de Dieu. Je parlais de Madame Pen hier à la pastorale, parce que c'était son anniversaire hier. Et j'ai dit aux frères, parce qu'il y avait des jeunes pasteurs, vous voyez, 60 ans que cette sœur, elle est fidèle. Vous n'avez jamais eu d'épreuve, Madame Pen. Vous n'avez jamais eu d'épreuve. Vous n'avez pas eu des épreuves. Et vous, Monsieur de Dieu, ça fait 60 ans qu'ils sont fidèles. Pourquoi ils n'ont pas bronché? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres? Vous êtes meilleur, Madame Pen? Vous êtes meilleur, Monsieur de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils se sont appliqués. Et regardez ce qu'il dit. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Mes frères et sœurs, nous, on est catastrophés quand on voit la quantité de chrétiens qui tiennent six mois. 6 mois. Et dès qu'il y a une petite tribulation, plouf, ils décrochent. Ils ne sont pas sérieux. Il faut être sérieux avec Dieu. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement accordée. Pourtant, il y a un prix à payer, mais là, on voit bien que c'est une grâce, vraiment. Comment ne pas broncher ? Eh bien, on va le voir ce soir. C'est pour que vous compreniez bien ce qui se passait à Corinthe. Il y avait des gens qui étaient affermis. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Qu'est-ce que c'est la vocation ? Qu'est-ce que c'est l'élection ? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Que nous comprenions bien. Vous connaissez Jésus quand il a parlé de la parabole des noces, du festin des noces. Il termine en parlant d'un gars qui était rentré, qui n'avait pas revêtu la robe de fin lin, la robe blanche, et qui s'entendra dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il va s'entendre surtout dire, retire-toi de moi, et c'est là qu'il va connaître des pleurs et des grincements de dents, dedans, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans, et il ajoute cette phrase qui est connue dans le monde même, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, l'élection, élu. L'élection, c'est la réponse à l'appel. Il nous est demandé d'affermir notre vocation et notre élection, dont nous devons affermir notre position en Christ. Nous sommes chrétiens et nous voulons continuer à rester dans cette position de sanctifier, de racheter. Mais il y a tous ceux qui font partie de notre vocation. Et la vocation, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous êtes appelés. Est-ce qu'il n'y a que les pasteurs qui sont appelés? Des fois, on dit, voilà, mais il a reçu le charisme, il a reçu la vocation pastorale. On le dit, ça. Mais la vocation, ce n'est pas pour les pasteurs. Bien sûr qu'il y a des vocations à tel ou tel ministère, tel ou tel service. Mais là, il est dit à tout le monde, appliquez-vous à affermir votre vocation. Alors, vous le découvrirez avec la concordance, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va en voir deux ou trois. Pour que vous compreniez bien que c'est comme ça qu'un chrétien sera debout quand Jésus va revenir le chercher. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne seront pas prêts. Moi, je crois, avec tout ce qu'on voit, que Jésus va bientôt revenir. Très, très bientôt. Si Jésus a dit justement il y a 2000 ans, je viens bientôt, bien sûr que ça fait rire beaucoup de gens. Moi, ça ne me fait pas rire. Moi, ça me met plus la pression à être debout quand Jésus va revenir. Ça ne me fait pas rire. Il y a des gens qui rigolent. Il y a des pêcheurs qui rigolent. Quand les pêcheurs rigolent, c'est de bonne guerre. Mais que des chrétiens en rient, moi, je trouve que ce n'est pas intelligent. Si Jésus a dit « je viens bientôt » il y a 2000 ans, bien sûr qu'on part du principe que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que 1000 ans sont comme un jour. Donc, c'était facile à comprendre. Mais moi, je crois que Jésus revient très, très, très bientôt. Et que ceux qui ne s'affermissent pas, ben, ils ne seront pas prêts. Nous sommes appelés à la communion. À quoi sommes-nous appelés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ce à quoi nous sommes appelés? Parce que c'est important, ça tient. Vous êtes ici depuis quelques années, donc j'en ai déjà parlé, plus ou moins. À quoi nous sommes appelés? Nous sommes appelés à quoi? À la communion. On l'a lu dans quoi? Dans Corinthiens. Nous sommes appelés à la communion. Est-ce que vous aimez la communion avec Dieu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimez faire votre culte personnel? Le matin, est-ce que vous dites, ah, j'aime me lever demain? Voilà. Je veux être en communion avec Dieu. Peut-être que vous ne le réalisez pas. Ce matin, une sœur m'appelait par rapport à la parabole des vierges. Elle me disait, mais comment avoir de l'huile? Mais j'ai dit, chaque fois que vous veillez, chaque fois que vous priez de tout votre cœur, eh bien, sans vous en rendre compte, votre lampe se remplit. Puisque Jésus a dit, veillez. Quand quelqu'un prend sa Bible chez lui, s'assoit, voilà, il se dit, je vais lire, tiens, les Corinthiens, je vais lire 2 ou 3 psaumes, et que vous lisez vraiment avec votre cœur, sans vous en rendre compte, votre cœur se remplit d'huile. Oui ou non? Et il y a des gens qui ne... La communion, c'est le dimanche matin. Et à 11h30, Seigneur, à dimanche prochain. Toi de ton côté, et moi du mien. Ça suffit pour la semaine. Alors je caricature, mais est-ce que ce n'est pas un peu la vérité pour beaucoup de chrétiens? Vous êtes appelés à la communion. La communion, c'est un état d'esprit. Ma femme, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle avait quelque chose à faire, mais je l'aime, même si elle n'est pas là. Oui ou non? Vous lui direz que je l'ai dit. D'accord? Nous sommes appelés. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Alors, tout ce à quoi nous sommes appelés, mais on va lire dans Pierre. Vous en trouverez plein dans la Bible. On va lire 2 dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 3, verset 9. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Donc, tout ce à quoi je suis appelé. Si vous faites ça, vous ne broncherez jamais. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Oui, moi j'ai perdu ma mère, ça m'a déstabilisé. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a repris ma mère, elle avait 90 ans. Non mais, moi j'ai entendu ça. Moi. Il faut prier pour une sœur, elle a 92 ans, il ne faut pas qu'elle meure. J'ai dit, mais vous rigolez? Sérieusement, est-ce que c'est normal que quelqu'un meure à 93 ans? Alors je comprends qu'on veuille prier pour qu'elle vive encore quelques semaines de plus. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être sérieux. Oui ou non? Et quand on commence à remettre en question toute la parole parce que Dieu n'a pas exaucé telle prière, écoutez, soyons sérieux. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire. Pourquoi? Comment vous avez écrit dans votre Bible? Il n'est pas bénissez au contraire, afin d'hériter la bénédiction. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Il faut bien écouter, il faut bien lire. Est-ce que ça vous arrive de vous faire insulter parce que vous êtes chrétien? Est-ce que ça peut arriver? Ça, si ça ne vous est pas arrivé, ça va venir. Moi, je me souviens, je me suis converti un mardi. Je me rappelle, je me suis converti un mardi en septembre, il y a 35 ans. Et le dimanche, on avait une réunion de travail dans la boîte de nuit où je travaillais. Et j'avais lu Matthieu. Bien sûr, j'avais lu plus que Matthieu, 5 jours avaient passé. Le pasteur m'avait dit, lis le Nouveau Testament. Et j'avais lu le sermon sur la montagne, heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Tout ça, je me suis dit, bon, ça ne devrait pas tarder. Et puis, on travaillait pour le programme de la semaine et tout. Puis tout d'un coup, le téléphone sonne. Il était derrière moi. Le téléphone sonne. Et la patronne, elle me dit, Gérard, tu prends, si c'est pour moi, tu dis que je ne suis pas là. Elle dit, mais tu, c'est clair. J'avais compris, il n'y a pas besoin de sermon, qu'il ne fallait pas mentir. Est-ce qu'il y a besoin d'un sermon quand on a été convaincu de péché, qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on a besoin d'un sermon pour dire, tu ne mentiras pas? Moi, je le savais qu'il ne fallait pas mentir. Je prends le téléphone, c'était pour elle. Ah oui, oui, je vous la passe, elle est là, je vous la passe. Elle m'a regardé comme ça. Elle est partie. Puis elle a parlé, elle a fait son truc, elle a raccroché. Et qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai dit de dire que je n'étais pas là. J'ai dit, écoute, Arlette, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi aussi, pas tout à fait. Et tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. 6 mois après, la moitié du personnel était converti. Vous entendez? Parce que j'ai pris position. Et bien sûr, c'est dur quand on se moque de vous. C'est pas facile quand on se moque. Ça va, on m'a traité de tout. Mais je dis ça parce que j'avais compris ces choses. Dès le départ, il y avait 4 jours que j'étais chrétien. Et je peux vous dire que j'avais décidé d'obéir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et quand la Bible dit, c'est à cela que vous êtes appelés, bénissez, eh bien, vous serez béni. Demain matin, vous vous levez, plutôt que « j'en ai marre, le patron, il m'a dit ceci, eh bien, je me mets 8 jours en maladie. » Des chrétiens, j'ai entendu, ici. C'est bizarre comme ces chrétiens, un an après, ils avaient rétrogradé. Tu t'es disputé avec le patron. Est-ce que ça peut arriver de s'accrocher avec le patron? Eh bien, le lendemain, tu y vas, tu dis « écoutez, excusez-moi, je vous demande pardon. Je me suis emporté par rapport à cette situation. Pardonnez-moi. » C'est ça, bénir. Et les chrétiens, ils se mettent en maladie, des chrétiens. Moi, je vous assure, je me demande si ces chrétiens sont nés de nouveau. La parole de Dieu, elle est catégorique. Si vous vous appliquez à affermir votre vocation, parce que c'est comme ça que commence l'étude aux Corinthiens, parce que vous ne comprendrez pas comment régler les problèmes si vous ne partez pas sur cette base d'être un vrai témoin, d'être affermi, de comprendre ce que c'est la vocation. Vous êtes appelé à bénir. Seigneur, demain, je te prie, moi je prie tous les jours pour François Hollande, je prie tous les jours pour M. Valls, pour M. Le Drian, pour M. Le Sapin, pour Dieu Sapin, le ministre du Travail, etc. J'ai pas envie. Franchement, je n'ai pas envie de prier pour les membres du gouvernement, ils m'énervent. Mais je le fais parce que la Bible dit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Franchement, moi, quand je vois les lois qui sont mises en place, moi, ça me dégoûte. Oui ou non? Ça me dégoûte. Mais ça ne fait rien. Je le fais, Seigneur, béni, Madame Taubira, c'est pas ma ministre préférée. Seigneur, béni cette femme. Ça ne veut pas dire que Dieu va la bénir. Ça veut dire qu'on demande que la volonté de Dieu soit faite. Bénissez, c'est ça. Seigneur, bénis ce pays. Bénis l'Église. Moi, je bénis tous les jours l'Assemblée dans laquelle Dieu m'a placé, en tant que chrétien. Parce que je suis un chrétien d'abord. Et je bénis Dieu d'être avec vous. Oui, parce que je vous aime. Presque tous, par les stagiaires. Mais je crois que je vous aime. Est-ce que c'est bien de s'aimer les uns les autres? Ben oui. Seigneur, merci. Il y a des gens qui n'ont pas d'Église. Mais regardez sur les sites missionnaires, les chrétiens qui ont eu toutes les églises bombardées en Syrie. En Syrie, je crois que rien que dans la ville d'Alep, ou Homme, je ne sais plus laquelle, 64 églises ont été bombardées. Ce n'est pas une grâce d'avoir une église? Seigneur, je veux bénir. Je suis appelé à bénir. De toute façon, le temps qu'on passe à bénir. C'est bizarre, on ne le passe pas à se plaindre. Et s'il est dit « rendez grâce continuellement, car c'est à cela que vous avez été appelés », est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Oui. Rendez continuellement grâce. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Il y en a marre, et ceci. Tout le temps, des chrétiens, moi je vois. Et après, oh, je te loue, Seigneur. Je te remercie pour le salut de mon âme. Et vous allez voir, ils vont pas arriver à trouver un truc. J'en ai marre, je comprends pas, dans cette église. C'est pas tout à fait ça. Il faut rendre grâce le dimanche matin pendant la louange. Et il faut rendre grâce dans la cuisine. Et dans la rue. Et dans les bouchons. Non mais mes frères et sœurs, il y a quand même des conséquences extraordinaires. En faisant ainsi, vous ne broncherez jamais. Vous avez été appelés à bénir. Bénissez l'Église, bénissez vos collègues de travail. Moi j'ai vu des chrétiens qui ont rétrogradé parce qu'ils se sont disputés avec des collègues. Bon, ça m'est arrivé de m'accrocher avec des collègues de travail. Et bien le lendemain, je leur dis, écoute, on s'est accroché hier, je suis désolé, j'en ai honte, je suis chrétien, pardonne-moi. Mais venez, on voit que tu es un vrai chrétien. Ils ne m'ont jamais reproché qu'on se soit disputé. Alors, qu'est-ce que ça coûte de demander pardon? Regardez, on va terminer avec un autre appel. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. On va lire jusqu'au verset 25. Regardez bien, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et vous tiendrez bon. Et vous comprendrez comment après on peut régler tous les problèmes qui se présentent dans la vie. Regardez bien, 1 Pierre chapitre 2, verset 19. C'est une grâce, je vais lire doucement pour qu'on réalise bien ce qu'on lit. C'est une grâce de supporter des afflictions. Je continue. Par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Bien sûr, si j'ai pris un manche parce que je roule à 180 sur la rocade, est-ce que c'est normal? Mais bien sûr. Mais si vous supportez la souffrance, écoutez bien, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Regardez bien la suite. Et c'est à cela que vous avez été, aidez-moi, appelé. Ah, on n'est pas appelé qu'à être joyeux. Alors, on est appelé à être joyeux ou on est appelé à souffrir? Ben, les deux.
Ben ouais.
Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas l'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Et si vous voulez que Dieu vous justifie, remettez-vous-en à lui quand vous subissez une injustice. N'en parlez même pas. Bon, si des fois on a besoin d'en parler, c'est vrai. Des fois ça fait du bien de parler à quelqu'un. Moi ça m'est arrivé, des fois d'ouvrir mon cœur à ma femme ou à un ancien. Ça fait du bien. Mais au niveau spirituel, remettez-vous-en à Dieu. Est-ce que Jésus aurait pu expliquer à Pilate, à Hérode, etc., comment il fallait faire? Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Il n'a rien dit. Et nous sommes appelés à souffrir. Ah non, monsieur Gros, c'est pas possible. Un chrétien, il ne souffre pas. Un chrétien, il est joyeux. Oui, il est joyeux. Moi, je pense, et je demande aux stagiaires, justement, quand on chante, de commencer toujours avec un cantique sur la joie du salut. Parce qu'il y a la joie du salut. Vous êtes d'accord avec moi? On peut passer une très mauvaise semaine et malgré tout chanter un cantique, oui, avec des cris de joie. Mon cœur te chantera. Oui, je suis heureux d'être sauvé. Passer une mauvaise semaine, mais je suis heureux parce que je suis sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il n'empêche que nous sommes appelés à souffrir. Alors des fois, on souffre. C'est notre faute. Après tout, on l'a bien cherché. Mais des fois, on souffre injustement. Vous êtes d'accord? Et ce n'est pas parce qu'on souffre injustement qu'il faut dire, comme j'ai vu beaucoup de chrétiens, qui sont rétrogrades, « Ah moi, vous savez, j'aime la justice et je ne supporte pas l'injustice. » Eh bien écoutez, vous rétrograderez. Je vous le dis, ça ne vous fait pas plaisir. Si vous ne supportez pas l'injustice, vous rétrograderez. Un chrétien, il accepte aussi l'injustice. Vous le comprenez comme moi? Un chrétien dit rien. Ou alors, il demande de la sagesse pour savoir comment il faut répondre à chacun. Mais vous êtes appelé à souffrir. Et quand on est chrétien, on souffre parce que des gens dans nos familles vont en enfer. Ça ne nous fait pas rigoler beaucoup, ça. Oui ou non? Jésus a souffert. Nous aussi, nous souffrirons. Jésus s'en remettait à celui qui juge. Vous savez, si vous voulez que tous les problèmes que vous avez rencontrés soient réglés, la meilleure façon, c'est de remettre au Seigneur. Vous le croyez, ça? Quand on dit, Seigneur, tu vois, j'ai traversé cette situation avec un frère. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait un problème dans une église entre deux frères? Il n'y en a pas eu avec nous, mais ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver? Oh, moi, monsieur Gauche, je ne supporte pas un problème dans l'église. C'est inadmissible. Il y a des gens, ils rêvent, oui. Il y a des gens, ils sont dans l'utopie. Ils rêvent. Est-ce qu'on peut avoir dans une famille, avec des frères, des sœurs, et papa et maman, est-ce qu'il peut y avoir un problème? Est-ce que ça peut arriver que deux frères se crêpent le chignon? Deux sœurs plutôt. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est grave? Ben non. Ah, est-ce que t'es plus mon frère? T'es plus ma sœur? On s'est disputé les frères avec les sœurs. C'est toujours nos frères. Hein? Oui ou non? Alors, les épreuves, les souffrances, il faut être intelligent, mes frères et sœurs. Ça va tellement loin que dans 1 Pierre au chapitre 4, hein, mais ça je ne sais pas si c'est prêché, en tous les cas c'est écrit, et il faut le lire, parce que c'est conforme à la saine doctrine, ça va tellement loin cette affaire d'appel à la souffrance, qu'il est même écrit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, qu'est-ce qu'il est écrit dans votre Bible? Vous aussi, armez-vous, ça veut dire que ça devient une bénédiction. Armez-vous de la pensée de souffrir, de la même pensée. Vous lirez la suite. Mais mes frères et sœurs, il faut être armé. Comment un homme, quand Dieu dit il vous affermira, c'est pas magique. Ah, tu m'appelles à la communion? Eh bien, je vais peaufiner la communion. Oh, le matin, je ne fais pas mon culte personnel. Ce soir, j'ai compris ça, je vais le régler. Oula, ces injustices que je vis au boulot, Seigneur, je les dépose à tes pieds. Je les accepte. Tu m'appelles à bénir. Ah, oh, c'est vrai que cette personne-là, elle est athée. Eh bien, elle est athée. Rendez-lui un bon témoignage. Qu'elle voit que vous êtes un vrai chrétien. Oh, cette personne, elle est grossière et tout. Moi, j'ai prié quand j'étais sur les chantiers. Et je vous promets, devant Dieu, que la dernière année sur les chantiers, pourtant, c'était pas des perles, les gars. Hein. Il n'y avait plus un gros mot sur le chantier. Ils le savaient. Je leur avais dit, ça m'énerve. Hein. Et ils le savaient, ils ne disaient plus de gros mots. Enfin, devant moi. Mes frères, je crois qu'on peut faire des expériences avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire des expériences? Et quand Dieu dit, appliquez-vous à affermir votre vocation, les gens, ils lisent la Bible, mais c'est de la folie. Ils lisent la Bible, ils ne cherchent pas à comprendre. Et quand Paul dit à Tite, je le lisais cet après-midi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça, c'est la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens vont à l'église, Seigneur, bénis-moi, ils font ce qu'on appelle du nombrilisme. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est dire, tiens, c'est vrai, j'étudie les Corinthiens, puisque le pasteur nous l'a demandé. Bon, ah tiens, on est appelé à la communion. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? C'est ça être chrétien. Vous vous rendez compte de ce que Dieu leur dit? Attention, je le dis à votre honte. Enfin, ça, je ne sais pas comment ils ont pris la lettre. Je ne sais pas, ils sont morts tous ces gens. Je le dis à votre honte. Quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. Et les gens, on l'a vérifié des centaines de fois. Les gens qui pêchent volontairement, ils ne connaissent pas Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, quand ils commettent un péché, eh bien ils le règlent. D'ailleurs, on va terminer avec cette pensée, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est chrétien, on ne pêche pas. Quand on est chrétien, il peut nous arriver de pécher involontairement, et on le règle. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 2, à 2-2. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Attention, il y a des gens qui ont utilisé ce texte pour tolérer le péché. Et de toute façon, ça tient pas longtemps cette affaire. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si je vous disais, ah ben vous savez, moi depuis ma conversion, j'ai jamais péché. Ouais, vous savez, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, non mais là, il y a vraiment un problème. Il vient d'en commettre un. Il vient de mentir. Vous voyez? S'il nous dit, alors quelqu'un qui dit, moi, je me rappelle, dans l'église à Castres, il y avait le pasteur qui avait dit, pour expliquer qu'on était tous des pécheurs, vous savez, la Bible dit qu'on est tous des pécheurs, et tous privés de la gloire de Dieu. Il avait dit, voilà, dans l'église, dans cette assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais menti? Et il y a une femme qui dit, moi, j'ai jamais menti. Et lui, il ne s'est pas laissé démonter, mais il a dit, mais pour le premier mensonge, c'est la preuve. Vous voyez, on est tous des pécheurs, mais vous faites la différence entre le péché volontaire et involontaire. Alors, le péché involontaire, 1 Jean chapitre 2, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il faut les confesser. Vous êtes d'accord? Il faut les confesser à qui? À qui? À Dieu, d'accord. Si j'ai menti à Monsieur de Dieu, est-ce que je dois juste dire pardon Seigneur? Ou est-ce que je dois aller voir Monsieur de Dieu et dire je vous donne pardon, je vous ai menti? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux. Confesser ses péchés, c'est les confesser à Dieu, c'est obligé, parce que le péché, c'est d'abord une offense à Dieu, et après c'est une offense à la personne. Hein. Et ne vous contentez pas de dire juste Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti à Monsieur de Dieu, pardon Seigneur, pardon, je regrette. Oui, et bien si vous regrettez, vous allez lui demander pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si, donc ça, c'est ponctuel, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et pour équilibrer quand même l'affaire, il faut prendre un texte dans les Hébreux où il est parlé du péché volontaire. Là, ce texte parle du péché involontaire et il y a un texte qui parle du péché volontaire. Il faut qu'on sache, c'est ça être affermi. À quoi je suis appelé? C'est quoi le témoignage? C'est quoi la sainteté? Parce que je n'ai pas pris un texte, mais il est écrit aussi que nous sommes appelés à la sainteté. Il y a la sanctification par le sang de Jésus, mais il y a la sainteté par le comportement. Hébreux chapitre 10, verset 26. C'est l'introduction de cette étude, parce qu'on ne peut pas aborder le comportement d'un chrétien si on ne comprend pas la base de ce que c'est un véritable chrétien. Le péché volontaire, Maintenant, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Regardez bien, c'est archi grave. C'est très sévère. Et il le faut pour que les gens qui tolèrent le péché eh bien, soient repris. Regardez bien. Car si nous péchons volontairement, vous faites la différence avec le texte qu'on vient de lire dans Jean. Vous êtes d'accord ? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc ça s'adresse à des chrétiens, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment, alors je répète, c'est dans le Nouveau Testament, hein ? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance et aura outragé l'Esprit de la grâce ? Vous êtes d'accord ? C'est une question quand même qui est posée là. Est-ce que c'est vrai ça ? Mes frères et sœurs, il y a le péché volontaire et le péché involontaire. Si je commets un péché, je demande pardon au Seigneur. Ils étaient furieux, les pharisiens, quand Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Vous vous rappelez à cet homme qu'on avait amené là ? Ils ont dit « Mais c'était furieux, mais pour qui se prend ? Il n'y a que Dieu qui pardonne. » Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu. Et Jésus a dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » C'est sur la terre qu'il faut régler le problème. Ce n'est pas après. Il y a des gens des fois qui disent « Ah, ben si c'est vrai, on verra après. » Ça sera trop tard. C'est sur la terre que le Seigneur a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est sérieux cette affaire. Le péché involontaire, bon, le péché involontaire. D'ailleurs, je termine quand même j'insiste parce que moi ça me fait peur quand je vois certains chrétiens qui mentent, mais ils n'en ont rien à cirer. Oh, c'est pas grave, je ne vais pas au culte, c'est pas grave. Moi je trouve que d'aller au culte, à moins qu'on travaille, mais quand on ne va pas au culte parce qu'on préfère aller à la plage, pour moi ça serait un péché. Est-ce que je suis légaliste ? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, monsieur Gouy, il est légaliste. Est-ce que c'est écrit d'honorer le jour du Seigneur ? Est-ce que c'est écrit ? Mais oui ! Il y a des gens, ils n'honorent pas le jour du Seigneur, mais ils s'en fichent royalement. Bien sûr, si vous êtes boulanger, infirmier, plombier le dimanche, eh bien, c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, quand on aime le péché, ça va mal finir. On termine avec ce texte. C'est un des derniers avertissements, je l'ai lu dernièrement plusieurs fois, mais je pense que quelqu'un en a besoin. Quand il est dit dans l'Apocalypse, verset 15 du chapitre 22, et ça explique ceux qui pêchent volontairement, c'est le dernier comment dire, reproche sévère de la Bible. Après, il y a des avertissements, il y a des promesses, il y a des invitations. Tout ça, c'est bien de voir les dernières choses dans la Bible. Mais le dernier reproche sévère, qu'est-ce qu'il est dit ? Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, c'est volontaire. Si je mens, je vous l'ai dit l'autre fois, ça m'est arrivé en 34 ans de mariage de mentir 5 ou 6 fois à ma femme. Des bêtises en plus, vous inquiétez pas, c'était débrouillé. Mais c'était quand même un mensonge. J'ai eu honte et tout, bon, mais je lui ai demandé pardon. J'ai dit, écoute Isabelle, je te demande pardon, je t'ai dit ça, c'est ridicule, pardonne-moi. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui aime et qui est pratique le mensonge ? Non, c'est ponctuel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut faire la différence entre un péché ponctuel et celui qui aime et qui pratique ce péché. Si vous aimez le péché, si vous le pratiquez, vous scandalisez les gens, et quand Jésus va revenir, vous allez rester sur le carreau. Et vous allez pleurer, parce que Dieu nous demande d'avoir un comportement qui va nous amener à connaître Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés. Alors, relisez ces choses, relisez-les. Prenez une concordance, tout le monde a Internet. Alors, pour aller vous regarder Disney Channel, ça les gens ne savent le faire. Et j'en profite pour dire, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de Disney Channel. Et je ne savais pas ce que c'était. Non mais, si vous voulez apprendre à vous moquer des gens, regardez Disney Channel. C'est l'école de la moquerie. C'est impossible qu'un chrétien puisse supporter un truc pareil. Vous ne connaissez pas ? Mes frères et sœurs, un chrétien, il s'applique à être un bon témoin. Il s'applique à être ferme, il veut ne pas broncher, il veut que l'entrée du royaume éternel lui soit largement accordée. C'est pas ça que vous voulez ? Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux que ça se passe bien quand je vais partir. Et ça dépend que de nous. Oui ou non ? Ça dépend pas de Dieu. Quelqu'un me disait dernièrement, « Ah ben, si Dieu veut que je sois sauvé, ben, s'il le veut !» J'ai dit, « Mais il le veut. Il le veut. Il est mort sur la croix pour que vous soyez sauvés. » Il le veut. Et combien il le veut? Alors ne soyez pas légers, mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de témoignage.